France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Son spectacle Maldon affiche complet partout ou presque. Elle est la jeune chorégraphe qui fait déplacer les foules et séduit ceux que la danse contemporaine ne touchait peut-être pas. Laïla K sera mon invitée à partir de 13h. Et je sais que vous l'attendez toutes et tous, le plateau critique du jour. On se penche sur l'actualité de la scène avec la sicilienne Emma Dante qui s'empare des femmes savantes de Molière au théâtre du Rond-Point et Eva Doumbia qui revient sur les lieux d'un massacre perpétré pendant la Seconde Guerre mondiale contre des soldats africains de l'armée française. C'est Chasselet et autres massacres au théâtre public de Montreuil. Vous écoutez les Midis de Culture, mais quel talent, mes aïeux, quel talent! Voici les critiques du jour. Victor Inizon, docteur en études théâtrales, dramaturge et critique, bonjour.
Bonjour Marie.
Vincent Bouquet, journaliste et responsable d'édition du site Scène Web.
Bonjour Marie.
Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Dans un mot, il y a déjà tout le livre. Donc, où on casse un mot et l'histoire apparaît dans ce mot. En fait, c'est un rapport excessivement matériel au langage, comme si le langage était... Enfin non, parce qu'il l'est, que le langage est une onde, quelque chose que nous dépensons, que nous jetons dans l'espace par notre respiration. L'idée qu'une conversation, c'est pas deux personnes qui ont une pensée, qu'ils expriment par le langage et qu'ils échangent des signaux communicants, non, c'est la formation d'une sculpture ou d'une danse entre nous, d'une sculpture entre nous deux, en ce moment, comme ça, que les mots sont entre nous, ils sont ni à l'un ni à l'autre, dans le fond. Pour moi, les mots sont des animaux semi-sauvages, hein, et avec leur histoire, avec leur... Et on a affaire à une onde.
Avant de commencer, on ne pouvait pas consacrer cette émission à l'actualité du théâtre et ne pas évoquer Valère Novarina. Le dramaturge et metteur en scène est mort vendredi à l'âge de 83 ans. Vous l'avez entendu, amoureux des mots. Il mettait le texte au milieu de la scène, une langue particulière, pulsée, rythmique. C'est un de ses acteurs fétiches qui le dit. André Marcon, Vincent Bouquet, vous, Valère Novarina, il a été important dans votre lien au théâtre.
Oui, effectivement, moi c'est vraiment une nouvelle qui m'a pincé le cœur, j'allais dire, avant de me pincer l'esprit, parce que Valère Novarina, d'un point de vue très personnel, c'est un des premiers artistes que j'ai eu la chance d'interviewer quand j'ai commencé à m'intéresser au théâtre. Et je me revois encore comme ça, tout jeune critique, arrivé chez lui, parce qu'il m'avait accueilli chez lui, sonner comme ça, être très très impressionné, et puis il y avait comme ça cette maison à plusieurs étages, je me souviens, très étroite. Alors peut-être que mes souvenirs déforment un peu la réalité, mais je me souviens de ça. Et là, j'ai atterri dans son bureau. Et là, son bureau, c'était son espace de travail. Et là, on voyait toute sa façon de créer, parce qu'il y avait des peintures partout.
Oui, certaines qui étaient, un grand peintre aussi.
Évidemment, qui étaient encore en chantier. Et ces peintures qui habitaient aussi la scène, qui habitaient le plateau, qui faisaient partie de ces scénographies. Et puis, il y avait ses feuilles. Il y avait des feuilles partout, accrochées au mur. Et là, il était en train d'écrire. Et en fait, dans sa façon de créer, Valère Novarina faisait comme ça, c'est-à-dire qu'il se déplaçait à l'intérieur comme ça des feuilles, à l'intérieur du texte, et tout à coup, il disait, il y a une pièce qui émergeait. Et donc, il ne travaillait pas en voulant écrire une pièce, mais il écrivait, et tout à coup, il y avait quelque chose qui émergeait. Et c'est vrai que ce rapport à l'espace-là, ça a forgé aussi mon regard du théâtre, c'est-à-dire l'idée comme ça que le langage puisse sculpter l'espace, et que l'espace, à son tour, sculpte le langage, et on a comme ça un langage qui se déployait avec des mots qui entraient en résonance. Alors au départ, moi je me souviens, j'avais vraiment un rapport où je me disais mais on comprend pas grand chose. Et puis en fait, au fur et à mesure, on voit les mots comme ça qui rebondissent les uns sur les autres. Et ce que j'ai toujours aussi trouvé très touchant chez Novarina, c'est cette façon de creuser son sillon inlassablement pendant des années. Il a toujours creusé ce même sillon du langage. Il y a plein d'artistes qui se disent moi je fais des révolutions, moi je me réinvente, moi je fais des cycles. Et ben Novarina, il a fait un seul cycle. Et il faisait des variations de variations à chaque fois. Et c'est vrai que c'était très beau parce que tout ça était irrigué par une sorte de sève de l'arbre de la parole, je dirais. Et ça, c'était très tendre, très touchant. Et c'est ce qui fait que c'est vraiment un geste qui a marqué l'histoire du théâtre, je crois.
Victor Inizon, vous avez eu envie de nous lire un texte.
Oui, effectivement, j'ai relu un texte théorique, pour le dire comme ça, en tout cas, qui s'appelle « Devant la parole » et qui est apparu chez POL en 1999. Ce sont quatre textes, en fait, dont l'éponyme « Devant la parole ». Et je trouvais que c'était un bel hommage de lire ces quelques mots. Qu'est-ce que les mots nous disent à l'intérieur où ils résonnent ? Qu'ils ne sont ni des instruments qui se troquent, ni des outils qu'on prend et qui se jettent, mais qu'ils ont leur mot à dire. Ils en savent sur le langage beaucoup plus que nous. Ils savent qu'ils sont échangés entre les hommes non comme des formules et des slogans, mais comme des offrandes et des danses mystérieuses. Ils en savent plus que nous, ils ont raisonné bien avant nous, ils s'appelaient les uns les autres bien avant que nous ne soyons là. Les mots préexistent à ta naissance, ils ont raisonné bien avant toi, ni instrument ni outil, les mots sont la vraie chair humaine et comme le corps de la pensée. La parole nous est plus intérieure que tous nos organes de dedans. Les mots que tu dis sont plus à l'intérieur de toi que toi. Notre chair physique, c'est la terre, mais notre chair spirituelle, c'est la parole. Elle est l'étoffe, la texture, la tessiture, le tissu, la matière de notre esprit. Bon, je trouve que c'est vraiment un texte qui est très beau, très émouvant, et je crois un peu comme Vincent quand j'ai découvert le théâtre de Novarina, adolescent, en fait, c'est une langue qui m'a paru au début un peu abstraite, aride, un peu abstruse, forcément, quand on rentre dedans. Et en fait, je crois que petit à petit, j'ai aussi saisi, et c'est ce qui m'a touché, à quel point, et là, il le dit, hein, la matière de notre esprit, le rapport, et il le disait aussi dans l'extrait, à la langue est en fait assez concret et très matiéré.
Oui, matière, oui.
Ouais, il parle de matière, il parle de concret, et en fait c'est un théâtre qui était pneumatique, comme il le disait, c'est-à-dire vraiment un théâtre du souffle, hein, où la question du mot est pas du tout cérébrale, en fait, finalement, hein. Et par ailleurs, Novarina a fait un théâtre d'acteurs pour les acteurs. Je parlais de ses textes théoriques, il y a une lettre aux acteurs aussi qu'il a écrit, qui est magnifique. Vous parlez d'André Marcon, il a eu des camarades vraiment acteurs pendant des décennies, Marcon, mais Dominique Pinon, enfin on pourrait en citer plein. Et je trouve que ce qui est très très beau aussi chez Novarina, c'est que par-delà cette espèce vraiment d'aspect peut-être abstrait, il faut vraiment aller creuser derrière pour se rendre compte à quel point c'est un théâtre ludique, extrêmement ludique, et même en fait un théâtre assez comique. Et ça, je trouve que c'est très, très
oui fort. Et d'ailleurs, tous les deux, quand on écoutait les extraits, ou même quand vous lisiez cet extrait, Victor, vous souriez en pensant à lui. C'est ça qui vient en premier.
Oui, parce que, et puis il y a ces personnages. En fait, voilà. Chez Novarina, c'est toujours aussi les personnages à travers lesquels, comme ça, s'incarne cette langue, et qui sont toujours très comiques, effectivement. Et puis même ce rapport à la musique, parce que il faut nommer aussi Christian Pacou, qui a été vraiment structurant, qui est l'accordéoniste, le musicien accordéoniste qui était toujours avec Novarina et qui, on va dire, cultivait, entretenait le rapport à la musique de Novarina. Parce que Novarina, en fait, il arrive en écrivant comme ça des mots, mais parce que, en fait, à la base, c'est grâce à la musique. Et c'est parce que il écoute, quand il a une douzaine d'années, sur le poste à Galène, sur un vieux poste à Galène, comme ça, en Suisse, eh bien, il écoute de la musique, et c'est ça. Et donc, je crois que ça se retrouve, ça aussi, cette rythmique-là. Et comme le disait très justement Victor, je crois que c'est un rapport très charnel à la langue et très concret, alors qu'on pourrait se dire, oulala, mais qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Mais je crois qu'il faut se laisser un peu bercer. Et je pense que même en écoutant les textes aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin. Je sais que sur France Culture, voilà, il y a eu des lectures de fait. Et je pense que ça peut être aussi très, très intéressant de faire cette expérience.
Merci à tous les deux. Voilà le petit hommage que rendent les Midis de Culture à Valère Novarina. Mais comme vous le précisiez, Vincent, il y a énormément de documents, de lectures, de rencontres, d'interviews de Valère Novarina à retrouver en podcast sur la page de France Culture.
Le plus grand projet de notre académie, une entreprise noble et dont je suis ravie, un dessein plein de gloire et qui sera vanté chez tous les beaux esprits de la postérité, c'est le retranchement de ces syllabes sales qui, dans les plus beaux mots, produisent des scandales. Ces jouets éternels des sots de tous les temps, ces fades lieux communs de nos méchants plaisants, ces sources d'un amas d'équivoques infâmes dont on vient faire insulte à la pudeur des femmes.
On commence donc avec ces femmes savantes mises en scène par l'italienne Emma Dante, qui fait un pas de côté, un véritable celui-là. Elle qui préfère faire entendre le sicilien sur scène, elle s'empare maintenant des alexandrins de Molière, alors non pas avec sa troupe mais avec les comédiens de la Comédie Française. Bref, c'est le patrimoine français dans toute sa splendeur pour la sicilienne. On commence avec un avis en quelques mots d'abord, Vincent Bouquet.
Oui, alors c'est vrai que comme vous le soulignez, c'est la première mise en scène d'Emma Dante avec une pièce du répertoire français, et à mon sens elle se prend un peu les pieds dans le tapis. Alors, à la fois, on va dire, il y a une esthétique comme ça baroque qui est assez séduisante, mais c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'elle ne développait pas assez une lecture suffisamment claire, finalement, de cette pièce, de ces femmes savantes, pour révéler le billard à plusieurs bandes, en fait, qui est activé par Molière.
Victor Inizan.
Mais je suis pas du tout d'accord avec ce que dit, Vincent, je crois. Moi, je trouve que c'est un spectacle qui est très lisible. Alors peut-être on va quand même se rejoindre sur certains points parce que je trouve qu'il y a tout un ensemble d'idées d'adaptation, de modernisation de la pièce qui sont très pédagogiques, moi je trouve. Peut-être un peu trop. Alors là, peut-être on se rejoindra. C'est un spectacle qui est un peu tiède, je dirais, mais je le dis avec une certaine tendresse pour le spectacle, parce que je trouve qu'il a l'élégance de préserver vraiment la duplicité inhérente aux femmes savantes de Molière, mais que, à force de se complaire aussi dans cette espèce d'élégance, ça l'empêche de dégager un propos qui serait un peu plus radical.
Alors, Vincent Bouquet.
Oui, ben alors moi je dirais que en fait sur les femmes savantes, alors je vais réactiver un vieux débat qui est vieux comme les femmes savantes et d'ailleurs qui est aussi vieux comme les précieuses ridicules l'aîné, c'est le débat un petit peu de la misogynie des femmes savantes, parce que c'est vrai que, alors j'ai lu moi des portraits d'Emma Dante où elle disait c'est une œuvre féministe.
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire.
Mais alors c'est vrai que à première vue on peut se dire comme ça, Philaminte, Armande et Bélise, donc les fameuses femmes savantes, elles paraissent émancipées, elles ont comme ça accès à un savoir qui à l'époque souvent on les privait. Elles sont dans une position aussi très dominante intellectuellement, domestiquement même, et notamment vis-à-vis du mari Chrysale, le mari qui est d'ailleurs assez soumis de Philaminte, qui est assez soumis à sa femme, et donc on peut se dire comme ça, on est dans une position de femme dominante. Sauf que quand on y regarde de plus près, et j'ai d'ailleurs fait l'expérience en recherchant dans le texte, en fait elles sont décrites comme folles à de nombreuses, très nombreuses reprises. Finalement, elles sont au choix soit tyranniques, soit dérangées, soit elles sont chichiteuses. Et puis, finalement, le savoir qu'elles détiennent, c'est souvent des sornettes quand même. De la pédanterie. Et puis, elles vouent un culte à Trissotin, évidemment. Et Trissotin, elles ne sont pas capables de voir qu'en fait, il se moque d'elles et qu'il est intéressé par la richesse de la famille. Et puis, qu'il a des connaissances littéraires de bas étage. D'ailleurs, le sonnet, à un moment, rappelle vraiment le sonnet d'Oronte dans le Misanthrope. Et donc là, on va avoir comme ça, a priori, on peut avoir une lecture assez... de se dire que Molière est un petit peu misogyne, peut-être. Alors, en réalité, il y a une sorte de billard à plusieurs bandes, comme dans Les Précieuses Ridicules, un jeu de miroir qu'il faut faire avec le public et qui doit être activé. Sauf que là, moi, je trouve, à mon sens, que Emma Dante, elle n'a pas de parti pris suffisamment clair et pas de lecture suffisamment claire pour activer ce billard-là à plusieurs bandes. Et comme le disait Victor, je crois qu'il va venir là-dessus, je veux pas déflorer, mais le côté pédagogique, en fait, c'est cette entreprise de contamination qu'elle met en place du présent par le passé. Parce que ce qu'il faut bien voir, oui, c'est que ces femmes savantes, elles arrivent, elles sont en habit d'aujourd'hui, elles ont un ordinateur portable, un smartphone, et puis tout à coup, paf, on va avoir des sacs qui dégringolent des cintres, et donc dans ces sacs, on va avoir le texte de Molière et puis tout un tas de costumes, d'accessoires, voilà, qui sont hérités du passé. Et en échange, on va avoir de l'autre côté des hommes qui, eux, sortent de mâles. Alors c'est vraiment, ça c'est assez bien fait parce que c'est vraiment des mâles de voyage comme les avait la cour royale. La cour royale, elle avait ça avant quand elle se déplaçait comme ça de château en château. Il y a tout le mobilier qu'elle charriait avec elle. Et donc, on a ces hommes qui arrivent et alors eux, ils sont hyper poussiéreux, déjà en costume, ils sont complètement ankylosés. D'ailleurs, on leur passe un peu des petits coups d'aspirateur dessus comme ça pour enlever la poussière. Et donc on va avoir comme ça ces deux temporalités et ces deux sexes aussi qui vont se rencontrer. Et donc on va avoir une entreprise comme ça de contamination. Et finalement, Emma Dante, j'ai la sensation, dit on a une image du passé, on a comme ça une image d'Épinal un peu qui se met en place et cela suffit. Cela suffit. Sauf que, à mon sens, cela ne suffit pas tout à fait.
Victor Inizan.
Oui, c'est un peu l'avantage et l'inconvénient de la duplicité, effectivement, qu'explore Emma Dante. Sur la fameuse question de la misogynie, je me permets d'y revenir, parce que c'est vrai que c'est au centre de la dramaturgie même. Alors, c'est vraiment un point de détail, mais je trouve qu'elle trouve une astuce un peu théorique, mais ça fonctionne. Je trouve que ça fonctionne relativement bien, moi, qui permet de garder précisément la duplicité, l'équilibre entre le ridicule que vous nommiez, Vincent, de ces femmes savantes, donc Philaminte, Bélise, et puis j'en oublie une, Armande, au moins en tout cas. Cette astuce, c'est la présence contemporaine, du coup, d'un ordinateur. portable qu'elles ont effectivement et avec lequel elles se... Et cet ordi, il est présent, contrairement à d'autres éléments de la pièce qui s'évacuent petit à petit, c'est-à-dire qu'au début, elles sont en costume contemporain, puis les jeans disparaissent, et puis on arrive en costume d'époque. L'ordi, lui, il reste tout du long,
et elles ont,
jusqu'à la fin, et elles ont accès à cet ordinateur. Et ça, c'est assez étonnant et assez intéressant. Cet ordinateur, j'ai l'impression que ce serait une sorte d'encyclopédie du savoir, mais de toutes les époques, qui d'ailleurs justifie un peu, là, on l'a entendu, les musiques, puisque le spectacle est émaillé de musique contemporaine, comme si cet ordinateur donnait accès à une sorte de culture pop, quoi, là, donc les musiques, mais aussi à un savoir un peu plus niche, un peu plus, et là, je vais même dire le mot, un peu plus révolutionnaire. Il y a un moment où elle montre, ces femmes savantes, les statues de leur association, enfin de leur académie, plutôt, à Trissotin, donc l'imposteur, le beau parleur. Et Trissotin a une réaction, il a l'air terrifié par ce qu'il voit, comme s'il était aussi un peu menacé dans son patriarcat, quoi. C'est-à-dire, oulala, les femmes vont peut-être prendre le pouvoir, etc. Bon. Et Vadus, qui est le rival de Trissotin, à un moment veut se venger de, voilà, du coup, du sale coup que lui a fait Trissotin. Qu'est-ce qu'il fait? Il va consulter cet ordinateur, comme si, encore une fois, cet ordinateur, qui est vraiment, qui appartient aux femmes, hein, était cette espèce d'objet qui permettait, comme ça, de possiblement, faire la révolution, tout simplement. Et je trouve ce qui est intéressant avec cet exemple-là, c'est que ça montre bien, et encore une fois, il y a quand même une partie de moi qui est d'accord avec vous, Vincent, c'est-à-dire que c'est toujours le problème de la duplicité, c'est que ça montre bien que le savoir est une arme à double tranchant, toujours dans le spectacle. C'est-à-dire que il y a vraiment cette idée que le savoir est à la fois ridicule, puisque les femmes savantes sont ridicules, mais en même temps assez noble, et à la fois une arme de la révolution et de l'aliénation en même temps, ça dépend ce qu'on en fait, quoi. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et petit élément supplémentaire, je trouve que c'est assez raccord avec les choix visuels qui sont faits. Et là, je trouve qu'il faut vraiment rendre grâce à tout l'univers esthétique donc de Vanessa Sanino qui a fait la scénographie et les costumes. Je pense notamment aux costumes qui sont, enfin vraiment, c'est difficile à décrire parce que c'est vraiment très baroque, comme vous le disiez, avec vraiment des notamment sur les bras, on a des épines, des doudounes, des cordelettes.
Il y a vraiment des détails comme ça qui sont hyperboliques en fait.
Ouais,
c'est comme ça, des détails hyperboliques qui sont vraiment très très beaux.
C'est très impressionnant, ça, je trouve. Et il y a tout un imaginaire aussi floral du spectacle que je trouve assez intéressant. Pourquoi? Parce que c'est kitsch, en fait, mais c'est en même temps sophistiqué. Et pour moi, c'est toujours un peu ça, l'intérêt du spectacle, c'est que c'est à la fois un peu ridicule et en même temps un peu noble. Et je trouve que ça marche assez bien, je trouve, avec cette idée de duplicité sur la question de la misogynie politiquement, quoi.
Vincent Bouquet, peut-être pour finir, comment Emma Dante, on l'a dit, qui, elle, fait des spectacles en sicilien, des spectacles sur le corps, qui tournent autour du grotesque essentiellement, qui s'est emparée de contes populaires, comment elle rentre dans la langue de Molière?
Ben justement, moi j'ai trouvé qu'elle y rentrait pas tout à fait. Et c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que, comme vous le disiez très justement, Emma Dante, habituellement, c'est une théâtralité qui est avant tout physique. Et elle n'est pas
alors
verbale.
Là, je suis d'accord, c'est vrai.
Et donc là, on se rend compte que quand elle laisse faire le texte, quand il y a des moments où, évidemment, on n'a plus l'esthétique qui joue, on n'a plus ces images, on n'a plus Billie Eilish qui tout à coup permet de faire une belle image, etc. Quand le texte se déploie, eh bien là, hop, ça tombe un peu à plat, et donc on va avoir comme ça les alexandrins qui tournent un peu sur eux-mêmes, un peu à vide. Et en fait, je pense aussi qu'il y a un problème de direction d'acteurs et d'actrices, parce que c'est comme si elles les avaient un peu laissés livrer à eux-mêmes, ces comédiens et ces comédiennes français.
Ils ont du métier sur le...
Ils ont du métier. Oui. Et d'ailleurs, par exemple, Laurent Stoker en Chrysale, par exemple, c'est ça aussi, moi, qui m'a un peu interpellé, c'est que Laurent Stoker en Chrysale, il est excellent.
Il est fou,
et on a vraiment envie, à la fin de la pièce, d'aller boire un coup avec lui, quoi. Sauf que c'est vraiment le moins féministe de la bande. Et donc là, il y a un peu un sujet. Et donc là, elle n'a pas suffisamment creusé le texte. Mais je crois que c'est pas son esthétique habituelle.
Les femmes savantes de Molière, mise en scène par Emma Dante jusqu'au 1er mars au Théâtre du Rond-Point, parce que la salle Richelieu de la Comédie Française est en travaux. Et le spectacle sera retransmis le 1er mars en direct à 15h dans plus de 300 cinémas dans toute la France.
196 tombes, dont celle des 188 tirailleurs sénégalais morts pour la patrie. Ces tirailleurs du 25e régiment des tirailleurs sénégalais n'étaient pas tous sénégalais, je le sais. Sur mon écran, je lisais leurs noms, prénoms, dans l'ordre de l'alphabet. Mais déjà, je devinais qu'en réalité, c'est un désordre. L'orthographe des noms colonisés est toujours incertaine en français. Noms qui se confondent avec les prénoms. prénoms, noms, prénoms écorchés d'hommes que la patrie a sacrifiés. Désordre d'un alphabet analphabétique.
Vous venez d'entendre un extrait de Chasselet et autres massacres, le nouveau spectacle d'Eva Doumbia, l'autrice et metteuse en scène part d'un fait méconnu de la Seconde Guerre mondiale, les massacres de soldats africains abusivement appelés tirailleurs sénégalais par les massacres par les nazis. À Chasselet, un petit village près de Lyon, on trouve un cimetière où reposent 188 victimes. Et de ce point de départ, Eva Doumbia explore d'autres manifestations du racisme criminel du Troisième Reich, mais aussi les liens entre les populations françaises et ces soldats issus des colonies. Victor Inizan.
C'est un spectacle vraiment bicéphale avec une partie documentaire, comme on l'a entendu là, et une autre fictionnelle. C'est tout le geste d'ailleurs dramaturgique que je trouve assez puissant, assez important sur le papier, quoi. Le désir d'écrire une histoire pour les disparus, pour ceux qui en ont malheureusement pas eu, en tout cas qu'on n'a pas assez entendu. C'est vraiment tellement dommage que le versant fictionnel, c'est pas le cas du versant documentaire, mais que le versant fictionnel soit trop faible et trop sage à la fois en termes d'écriture et de mise en scène, parce que ça donne un spectacle, je trouve, qui peine à trouver son équilibre narratif et même son équilibre politique, parce que le tuilage entre ces deux versants, le documentaire et le fictionnel, dont la qualité est, je trouve, assez inégale, parce que je trouve le documentaire bien meilleur, reste trop rugueux.
Vincent. Oui, bah là, pour le coup, je rejoins tout à fait Victor. C'est-à-dire que vraiment, dans son principe, c'est un spectacle qui est absolument nécessaire parce qu'il veut sortir, alors non pas de l'ombre, mais vraiment de l'oubli des événements et des hommes qui ont été comme ça effacés par l'histoire dominante officielle. Mais c'est vrai que ce qui est très dommage, c'est que, eh bien, on va dire, dans la concrétisation théâtrale, ça se révèle un peu trop faible. Et notamment, là, je rejoins Victor avec comme ça des ficelles fictionnelles qui sont un peu trop grosses quand même pour être tout à fait pertinente.
Alors Victor Inizan, commençons peut-être par le documentaire.
Oui. Bah, en fait, c'est vrai qu'il y a je me suis dit en découvrant la scénographie qui est très belle, ou qui reproduit en fait une partie des tombes de la nécropole de Chasselet, qui avait un côté presque installation assez pertinent. Et on a aussi deux murs derrière, donc qui permettent de diffuser des images d'archives. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a un duo de musiciens, des archives photos qui sont diffusées sur les murs. Et puis un récit qui est fait par une sorte d'alter ego d'Eva Doumbia, donc qui est un personnage d'autrice, hein, et qui à un moment scande même les noms, voilà, de tous les disparus de la nécropole de Chasselet. D'ailleurs, le public peut participer à ce moment-là. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir la feuille, en tout cas, où on pouvait participer, mais entendre comme ça une centaine de gens qui disent comme ça les noms des disparus, il y a quelque chose, je trouve, d'assez fort. C'est assez simple, mais c'est très percutant, quoi. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez beau. Et là où effectivement ça marche un peu moins, on va en parler, mais c'est l'aspect fictionnel, c'est-à-dire que petit à petit, on a entre les tombes des scènes de fiction qui viennent, et l'idée est bien, hein, enfin je veux dire, encore une fois, faire des scènes où les morts comme ça surgissent des tombes pour rejouer la fiction, enfin voilà, c'est vraiment très intéressant. Et le problème, c'est que c'est quand même assez convenu, d'un coup, vous parliez de ficelles fictionnelles, Vincent, je pense qu'on va être d'accord, je crois que, mais je sais pas si mon intuition est la bonne, mais que le problème vient du fait que le pari d'Eva Doumbia, c'est de faire des scènes quotidiennes. Des scènes quotidiennes, probablement pour échapper à côté héroïsation, etc., des combattants. Mais je crois que on n'arrive pas, en fait, à ressentir cette poésie du quotidien et pour plusieurs raisons qui tiennent à la fois à l'écriture et à la mise en scène.
Oui, je pense aussi qu'effectivement, il y a ce côté de vouloir faire germer comme ça une histoire à partir d'un substrat documentaire qui est une nouvelle fois très intéressant. Et d'ailleurs, pour rejoindre Victor sur le côté de l'évocation des noms, moi j'ai trouvé que tout de suite, on avait comme ça la faculté du théâtre à redonner, à incarner, à ne pas simplement donner des listes de noms, mais vraiment à incarner comme ça un corps, une voix, une sensibilité, et finalement à redonner une humanité à des gens qui ont été oubliés. Et c'est vrai que là, on a une histoire qui se développe et qui finalement est pas tant l'histoire de ces soldats que l'histoire qu'ils entretiennent avec la communauté villageoise de Chasselet, avec un lieutenant, une mère supérieure, et puis en miroir de ces deux frères, un frère et une sœur qui sont vraiment un frère et une sœur du cru. Et le problème, c'est que les positions de tous ces personnages-là sont des positions qui sont des positions très attendues. On va avoir la sœur qui est forcément la jeune femme un peu naïve, vierge, qui va s'enquicher du sol soldat. On va avoir le frère qui lui est un peu rustre, peu courageux, qui est un raciste, mais un raciste par ignorance. Et puis on va avoir la mère supérieure qui, parce qu'il y a de la charité chrétienne, en dépit des différences religieuses, va accueillir tout le monde. Et donc, à partir de cet endroit-là, comme les positions sont très attendues, eh bien, ce qui se déroule entre eux est aussi très attendu. Et donc, on va avoir comme ça une forme de on va dire, des ficelles qui sont un peu dignes d'un téléfilm historique quand même, hein, qu'on pourrait voir comme ça, avec la petite romance qui va bien, avec le lot de bons sentiments, parce que finalement, à la fin, eh bien, tout le monde se retourne, même le raciste se retourne, et puis avec l'horreur de la guerre. Et c'est comme si on perdait un peu de vue, et là, je rejoins vraiment Victor, on perdait un peu de vue tous ces fragments documentaires qui sont extrêmement intéressants. Et d'ailleurs, quand ils resurgissent de temps en temps, tout à coup, clac, l'intérêt se refait, à mon sens. Et là, c'est comme s'ils étaient noyés aussi parce qu'ils sont mis sur le même plan que ces éléments fictionnels qui sont un peu, voilà, un peu attendus.
Victor Nizan.
Je suis totalement d'accord. Pour compléter ce que vous dites, Vincent, je crois aussi que le recentrement, en fait, fictionnel autour de deux personnages, parce qu'en fait, c'est vraiment, il y a deux personnages, donc les deux frères dont vous parliez, et aussi un peu un rétrécissement, finalement, narratif et politique du projet, parce qu'on parle quand même de 188 personnes, en fait, et on ne s'intéresse finalement qu'à deux vraiment personnages qui, comme vous le disiez, sont saisis au milieu des villageois qui, je suis tout à fait d'accord, sont clichés et qui sont un peu abîmés par des tics d'écriture, c'est-à-dire que il pleut tout le temps, on ne sait pas trop pourquoi, et tout le monde dit toujours, mais qu'est-ce qui pleut, pourquoi la pluie s'arrête pas, etc. On se demande un peu qu'est-ce que ça vient faire là, ces tics d'écriture-là. Et c'est dommage parce que, du coup, cette quotidienneté qui, encore une fois, ne pose pas problème en soi, frise un peu l'anecdotique, ce qui est quand même un comble vu le sujet. C'est-à-dire quand les Allemands arrivent et massacrent les combattants africains, on n'arrive pas vraiment à s'émouvoir, alors que ça devrait être probablement une sorte de climax comme ça, dramatique. Et encore une fois, c'est vrai qu'on en sort frustré, d'autant plus que, et là, je vous rejoins aussi, Vincent, l'aspect documentaire, encore une fois, est pertinent et fonctionne au plateau.
Chasselet et autres massacres d'Eva Doumbia, c'est jusqu'au 27 janvier au Théâtre Public de Montreuil, et puis en tournée à Rouen, à Lyon. Vous retrouverez les dates sur la page des Midi. Le texte est publié chez Actes Sud, et je précise que dimanche prochain à 20h dans Théâtre et Compagnie, les fictions de France Culture diffuseront une version radiophonique de Yinche, le spectacle précédent d'Eva Doumbia, qui a été enregistré en public au dernier Festival d'Avignon, sur une réalisation de Baptiste Guiton. Merci beaucoup Victor Inouzan, Vincent Bouquet, d'être venu dans les Midis. On se retrouve très vite. Et vous qui nous écoutez, vous restez avec nous. On revient.